Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'espère que vous profitez du beau temps et que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Ben, j'ai une suggestion d'accompagnement auditif pour vous. Vous savez qu'avec mon mari Richard Martineau, on co-anime un balado qui s'intitule L'apéro piquant. Le principe est tout simple. On invite des gens vraiment à prendre l'apéro chez nous, un petit verre avec ou sans alcool, à la maison, dans notre salon. Il y a des micros qui nous espionnent et qui capte tout ça, et nos collègues font un excellent montage après les conversations. Et notre tout dernière invitée, la plus récente à notre apéro piquant, c'est la violoniste de réputation internationale, Angèle Dubeau. Elle avait plein d'anecdotes à nous raconter, entre autres sur l'impact que sa musique peut avoir sur certains membres du public, dont certains employés du 911 aux États-Unis.
Il y a le 911 d'une équipe du 911 de San Francisco qui m'écrivent et qui me disent, écoutez, hier, on a vécu, puis là, je n'irai pas dans le détail, mais la mort d'une maman, sa jeune fille l'a vue mourir et tout, c'est un truc atroce. Et toute l'équipe était comme vraiment démolie. Et puis, ils s'en revenaient, ils sont retournés à leur centrale ou leur bureau, je ne sais trop. Et puis, à la radio, jouait une des pièces de l'album Blanc. Et là, ils m'ont écrit, puis ils m'ont dit, vous avez été à un moment de notre vie, la musique, votre musique, nous a reconnectés à la vie, parce qu'on était tous à se demander, mais qui on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais de voir quelque chose qui était si lourd à avoir vu, pour eux, passait tellement mieux avec la musique. Ben ça, c'est la force de la musique aussi.
Et elle nous a raconté aussi, dans les années 80, elle a passé 3 ans en Roumanie, parce qu'il y avait un professeur de violon exceptionnel avec qui elle voulait étudier. Elle a passé 3 ans en Roumanie sous la dictature de Nicolae Ceaușescu. Voici ce qu'elle avait à nous raconter.
Alors, très naïvement, je suis arrivée, j'ai débarqué à Bucarest. Et puis, en 81, sous le régime de Ceaușescu, et là, je me suis retrouvée, un étudiant sur 3 travaillait pour la Securitate, tu ne savais pas c'était qui. J'avais des micros dans ma chambre. Lettres étaient ouvertes, oui. Mes téléphones étaient écoutés.
Incroyable.
La première année, je l'ai vécu dans des camines, des dortoirs, si on veut. Mais là, on pouvait pas me mettre avec les Roumaines. Moi, j'étais vraiment
Vaderetro,
c'est à Satanas. Faut surtout pas donner des idées. Alors, on me mettait dans une chambre à part. Et là, l'hiver, il y a de la neige, là. Il fait froid là-bas et tout. Mais l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Fait que je dormais avec ma tuque, mes gants, mon manteau, avec les couvertures. J'allais pour prendre ma douche et c'était un petit tuyau qui tombait comme ça. Et c'était de l'eau froide. Et là, c'était comme go, 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 go.
Et la bouffe.
Épouvantable. La première année, j'ai fait 9 grosses gastro-entérites. J'étais tellement maigre, pas mince, maigre quand je suis revenue. D'ailleurs, c'est ça, là, mes parents, après un an, m'ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, faut que tu reviennes, tu peux pas rester là-bas et tout. Mais moi, pour la musique, je voulais rester là-bas.
Alors, c'est toutes sortes d'anecdotes que vous allez retrouver dans le balado L'apéro piquant qui est en ligne aujourd'hui. Vous allez retrouver ça dans la section balado sur le site de Cube Radio. Elle raconte aussi une anecdote très rigolote sur le général de Gaulle. Je pense qu'à plusieurs reprises en écoutant ça, vous allez pousser un très amusé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Depuis 48 heures, on n'entend parler que du chemin Roxham et de la situation là-bas, c'est-à-dire que les prévisions pour cette année, pour 2022, seraient qu'on accueillerait jusqu'à 35 000 migrants qui passeraient par le chemin Roxham. Vous le savez, le gouvernement du Québec a demandé qu'on ferme le chemin Roxham, fin de non-recevoir. On peut dire que le chemin a été fermé à Ottawa par Justin Trudeau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les implications légales de ça. Donc, j'avais envie de parler à un avocat spécialisé en droit de l'immigration. On va s'entretenir tout de suite avec Stéphane Anfield, qui, lui, est bel et bien donc avocat en droit de l'immigration, qui est aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de Masson dans Lanaudière pour le Parti québécois. Maître Anfield, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Avez-vous été surpris hier quand Justin Trudeau a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de François Legault?
Pas du tout surpris. Et cependant, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on demande la fermeture du chemin Roxham qu'on doit être taxé d'être contre les réfugiés. Hein. Ce n'est pas ces personnes qu'on dénonce. Hein. Si on était à leur place, on ferait probablement la même chose. Elles veulent améliorer leur sort. C'est le système qu'il faut dénoncer. Et rappelons-le, système qui nous est imposé par le gouvernement Trudeau et toléré par le gouvernement de la CAQ. Ça fait des années, Mme Durocher, qu'on parle du chemin Roxham ensemble. Là, ça fait 6 ans qu'on dénonce ce chemin-là. Et manifestement, les gouvernements ne font rien. Vous mentionnez justement qu'hier, pas plus tard qu'hier, le premier ministre Legault et le ministre Boulet demandaient la fermeture du chemin Roxham. Cependant, il y a à peine quelques jours, derrière des portes closes, le gouvernement du Québec signait une entente de 50 millions afin justement d'héberger les demandeurs d'asile qui franchissent la frontière par le chemin Roxham en temps de 10 ans. Alors manifestement, c'est pas demain la veille qu'on va régler la question du chemin Roxham, et je pense que les gouvernements devraient mettre leur culotte, prendre les décisions qui s'imposent. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, on laisse aller et on envenime la situation. Et présentement, faut le dire, la situation est gangrenée.
Oui, mais je trouve ça très important, ce que vous venez de dire, Maître Anfield, de replacer les choses en perspective, de rappeler que ça n'est pas contre les migrants qu'on en a. Au contraire, on est prêt à accueillir plein de gens. On est très ouvert au Québec, on est très généreux, on est très hospitalier, mais c'est la manière. Et c'est la quantité, et c'est la façon. Mais c'est important de le mentionner parce que des gens qui critiquent, par exemple, le Québec, vont se servir de cet épisode-là pour dire « Ah, on le sait bien, au Québec, vous êtes anti-immigration, vous êtes xénophobe. » Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est important de le répéter.
Absolument. C'est un système qui permet justement aux demandeurs d'asile de franchir la frontière au Québec de cette façon. Et pourquoi au Québec? Bon, on le dit, on le répète, à cause justement du chemin Roxham, qui est une voie d'accès la plus facile. Et pourquoi les gens vont passer de cette façon pour demander le statut de réfugié? Ben, c'est l'entente sur le tiers pays sûr, entente qu'on dénonce depuis de nombreuses années, qui doit être abolie ou à tout le moins revue, qui oblige d'une certaine façon les gens à franchir la frontière de cette façon si elles ne veulent pas être refoulées en territoire américain. Alors moi, ce que je demande, c'est revenons à la base, revenons avant l'entente de la signature de cette entente, hein, qui, rappelons-le, a été signée par l'ancien gouvernement libéral qui était le ministre à l'époque de l'immigration, Denis Coderre, qui avait probablement de bonnes intentions à l'époque, mais aujourd'hui, force est d'admettre, de constater que l'entente a des effets négatifs et négatifs pour le Québec. Vous savez, on parle de 7000 entrées irrégulières par le chemin Roxham au cours des 3 derniers mois. Et si on compare avec les entrées ailleurs dans le reste du Canada, on parle d'environ 150 en Colombie-Britannique, à peu près le même nombre pour le Manitoba. Donc, c'est complètement ridicule comme situation. Alors, réglons le cas, et à ce moment-là, les gens vont se présenter de façon officielle à un poste de contrôle. Elles seront prises en charge, ces personnes, par les autorités compétentes, et sur toute la frontière canadienne, pas seulement au Québec,
mais
parce
oui.
que présentement, les demandes d'asile, désolé, mais au Canada, c'est au Québec que ça se passe.
Oui, et c'est important de le rappeler, Maître Anfield, il y a quelques années de ça, je me souviens pas quelle année, mais peut-être vous vous en souvenez, à Emerson, au Manitoba, il y avait des passages illégaux. Le gouvernement du Manitoba a demandé à Ottawa de fermer ce passage-là, et le gouvernement l'a fait. Donc, si le gouvernement, si Ottawa est capable de le faire quand c'est une entrée, une passoire, quand la passoire se situe au Manitoba, on dit « OK, on va fermer le passage ». Quand il est au Québec, on laisse le robinet ouvert. C'est un deux poids, deux mesures,
absolument,
il me semble.
Et un autre bel exemple également, que celui que vous venez de mentionner, en Colombie-Britannique, il y a quelques années, des bateaux de Tamoul, de réfugiés Tamoul, arrivaient de façon illégale au port de Vancouver. Et à l'époque, le gouvernement Harper n'avait pas attendu 6 ans pour légiférer. Il avait apporté des modifications importantes à la loi sur l'immigration afin de criminaliser d'une certaine façon cette façon de faire. Et on n'a plus entendu jamais parler de bateau arrivé au port de Vancouver avec à son bord des demandeurs d'asile tamouls. Alors pourquoi, puisque la situation est typiquement québécoise, ça prend 6 ans avant de régler une situation? Hier, le gouvernement Trudeau nous disait on négocie avec les Américains, on va trouver une façon de modifier l'entente sur les tiers pays sûrs. Ça fait plus de 6 mois que cette nouvelle-là est sortie. Et pourtant, 6 mois plus tard, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut que les gouvernements bougent. Et je pense que ça va prendre, Mme Durocher, de la volonté politique. Il va falloir être créatif, il va falloir être imaginatif. Je veux juste rappeler qu'au début de la pandémie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fermé sa frontière à tous les citoyens québécois qui voulaient se rendre aux îles de la Madeleine.
C'est vrai? Alors, je lance l'idée. Raison?
Je lance l'idée. Le chemin Roxane, c'est un chemin municipal à ce que je cherche. Alors,
je vous
que les gouvernements soient créatifs, qu'ils soient imaginatifs, que les conseillers politiques qui sont payés pour trouver des idées, ben, qu'ils passent moins de temps sur Twitter, plus de temps dans leur bureau à réfléchir à la question.
Je trouve ça... Non, c'est un bon parallèle. C'est un bon parallèle. Écoutez, mon collègue Philippe Vincent Foisy, hier, a amené des très bons arguments pour la réflexion, justement, sur le chemin Roxham. Il faisait un parallèle, entre autres, avec, la situation qu'il y a en ce moment en Ukraine, des réfugiés ukrainiens qui veulent entrer au pays pour fuir la guerre et qui se font vraiment mettre toutes sortes de tracasseries administratives, des données biomédicales, puis il faut que vous ayez tel papier, puis tel ceci, puis tel cela. Donc, comment ça se fait que d'un côté, il y a une passoire, puis d'un autre côté, on met vraiment toutes sortes de barrières pour des réfugiés légitimes. Et l'autre élément qu'amenait Philippe Vincent, que je trouve drôlement intéressant, c'est qu'il rappelait à tout le monde que, vous savez, après le retrait des troupes étrangères et après le retrait des puissances mondiales d'Afghanistan, ben on a quand même encore en Afghanistan des interprètes qui ont aider le Canada, qui se retrouvent sur place et qui veulent, on leur avait promis qu'ils pourraient venir vivre ici au Canada avec leur famille, et c'est pas encore fait. Donc, il y a comme d'un côté une passoire, puis de l'autre côté des tracasseries bureaucratiques. Comment on explique ça, Maître Enfield?
Difficile à expliquer. En fait, si on fait la comparaison entre le chemin Roxham et la situation en Ukraine, évidemment, c'est deux situations complètement différentes. Et au niveau de l'Ukraine, le gouvernement fédéral, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, n'a pas introduit un programme spécial pour réfugiés. Hein? Il a introduit deux programmes spéciaux, un à titre de temporaire, donc de visiteurs, disons-le ainsi, et de résidence permanente dans le regroupement familial. Alors que les gens qui passent la frontière par le chemin Roxham demandent le statut de réfugié, et dans ce contexte-là, ils n'ont pas le choix d'être accueillis et d'être entendus éventuellement par la commission de l'immigration du statut de réfugié, qui, elle, verra déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non parmi les demandeurs qui se présentent devant ce tribunal. Mais pour l'Ukraine et aussi l'Afghanistan, en Afghanistan, c'est fort différent. Hein? On a introduit un programme pour les réfugiés. Mais ce que je constate au gouvernement fédéral, au ministère de l'Immigration, c'est pas la première fois, on voit la situation de crise en Ukraine, c'est pas la première fois qu'il y a une situation de crise, qu'on vit des crises, on l'a vu avec l'Afghanistan, avant ça la Syrie, l'Irak aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on refait la roue, qu'on réinvente oui. la roue à chaque fois. On ne prend pas en considération ce qui a été fait dans le passé, les erreurs commises pour corriger ces erreurs-là. Écoutez, on est au mois de mai, on est à la mi-mai et on attend encore des Ukrainiens qui auront été acceptés dans ces nouveaux programmes-là. On les attend encore. Alors, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de bouger plus rapidement? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de régler une situation fort simple au chemin Roxham? Vous savez, l'entente sur les tiers pays sûrs là, qui est signée avec les États-Unis, là, il y a un article, hein, l'article 10, qui permet à un des deux partenaires de suspendre unilatéralement les effets de l'entente.
Ah oui?
Pas besoin de demander à l'autre partenaire. Comment se fait-il qu'on ne l'utilise pas pour stopper présentement la situation et puis réfléchir à la question et emmener les gens à passer par les postes frontaliers officiels? Comment se fait-il qu'on ne le fait pas? On a prévu dans cette entente, cette disposition-là, pourquoi maintenant on ne l'utilise pas? Faudrait répondre à la question, mais malheureusement, j'ai pas de réponse.
Oui, pour citer encore une fois un collègue ou une collègue, Régine Laurent, hier, sur les ondes de TVA LCN, posait une très bonne question. Elle disait, si le chemin Roxham, au lieu de déboucher sur une municipalité québécoise, c'est près de Saint-Bernard-de-la-Colle, si le chemin Roxham débouchait juste à côté du Parlement, à Ottawa, puis qu'il y avait des hordes s'il y avait une foule de migrants illégaux qui se retrouvaient devant le Parlement, est-ce que la situation serait différente? Est-ce que, autrement dit, les parlementaires, est-ce que le gouvernement fédéral est pas déconnecté de la réalité sur le terrain?
Ben, écoute, je pense qu'on connaît tous les deux la réponse hein, à cette question. On a cité tous les deux, on a rappelé tous les deux des exemples dans le passé où des demandeurs d'asile entraient sur un territoire canadien ailleurs au Canada qu'au Québec de façon irrégulière et les gouvernements n'ont pas tardé à régler la situation. Alors, j'imagine que si le chemin Roxham se trouvait ailleurs, la situation serait fort différente. Maintenant, c'est au Québec. Pourquoi le gouvernement tarde à régler le problème? Je pense qu'il aura éventuellement à répondre. Pourquoi le gouvernement du Québec tolère cette situation-là, ne prend pas les mesures? Hein? Je parlais plutôt d'être créatif, d'être imaginatif. Ben, je pense qu'on est rendu à ce point-là. Hein? Vous savez, le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit par le chemin Roxham, hein, il est plus élevé qu'en 2017, au moment où on a réquisitionné le stade olympique pour les accueillir. Faut-il C'est le vrai? Rappeler? On est à un niveau encore plus élevé de passage au chemin Roxham. Alors, puis, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas ces personnes-là que je dénonce. Parce que là, j'ai lu plein de choses hier sur les médias sociaux. On dénonce pas les demandeurs d'asile, on n'est pas contre les réfugiés. On est contre ce système-là qui est inacceptable. On est la risée de partout sur la planète. On a un passage non officiel de notre frontière qui est connu par les gouvernements, qui est connu par les autorités, qui est toléré, non seulement toléré, mais d'une certaine façon encouragé.
C'est complètement ben oui. absurde. Ben oui, bien sûr, parce que le 50 millions dont vous avez parlé pour 10 ans, pour accueillir, puis des logements et tout ça, c'est absolument hallucinant.
Oui, ben en fait, d'un côté, on ne peut pas publiquement dénoncer le chemin Roxham comme gouvernement, et de l'autre, derrière des portes closes, il y a à peine quelques jours, signer une entente de 10 ans, de 50 millions pour héberger les demandeurs d'asile. Et le gouvernement Trudeau a fait la même chose, hein, souvenons-nous, l'année passée, où il a signé un contrat de plusieurs années pour l'installation de roulottes.
Oui, je me rappelle.
Près de la colle. Alors, 5 ans avec le gouvernement fédéral, 10 ans avec le gouvernement du Québec. Manifestement, les gouvernements ne souhaitent pas régler cette situation-là à court terme.
Oui, c'est très important de le rappeler. Maître Stéphane Enfield, donc avocat en droit de l'immigration, vous êtes aussi candidat à l'investiture dans la circonscription de Masson dans la Naudière pour le Parti québécois. Merci de nous avoir éclairé. Puis ce sont des rappels historiques importants, en particulier les chiffres là, sur l'époque où on accueillait en effet les migrants illégaux au stade olympique. C'est important de rappeler ces chiffres-là. Merci beaucoup, Maître Enfield.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
On tient à dire que la situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens. La tangente qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours.
Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est Luc Boileau, le chef par intérim de la santé publique, le directeur par intérim de la santé publique. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique publique. Patrick, bonjour.
Bonjour Sophie.
Moi, ce que j'aime, c'est quand t'écoutes les conférences de presse à la santé publique, tu trouves toujours des perles, des incongruités, des contradictions, des fausses affirmations, des demi-vérités. Alors, j'ai très hâte d'entendre ton analyse de la conférence de presse d'hier.
Oui, écoute, c'est formidable. Et sur la déclaration que tu viens d'entendre, c'est un peu, bon, monsieur Boileau, il dit, ah ben c'est parfait, ça va dans le bon sens. Mais moi, quand j'ai entendu ça, la première image que j'avais en tête, c'est le tsunami de 2004 ou 2005 en Indonésie, là, Une fois que la vague était passée puis qu'il y a eu 150 000 morts, là, ben, si tu regardais l'eau partir vers la mer, tu disais, ben, c'est bon, tu sais, les choses vont dans le bon sens. Et, c'est évidemment, l'ordre de grandeur n'est pas le même, mais il y a quand même eu, fin mars, quand Dr. Boileau a commencé à dire, non, ça va quand même assez bien, faut qu'on est confortable d'alléger les mesures, ben, on a quand même eu une sixième vague.
Ben oui.
Et il y a quand même eu 800 morts. Les hôpitaux se sont pas remplis autant qu'en début d'année. Mais si tu parles à des gens qui sont sur le terrain, là, des médecins internistes, des intensivistes, puis, des gens qui travaillent avec des patients qui ont la COVID, des infirmières, ils ont la langue à terre. Il a manqué, à un moment donné, 13 000 personnes dans le réseau de la santé, ce qui est énorme. Mais... Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, tout va bien. Là, il fait toujours beau. Quand tu regardes la télé, il fait toujours beau. Mais des fois, tu regardes dehors, c'est un peu différent.
C'est en effet assez intéressant. Et quant à M. Boileau qui dit, c'est ça, on est prêt pour la septième vague, j'avoue que c'est quand même la cerise sur le sundae, là.
Mais, ça, tu sais... Il y a tellement de niveaux à quel point ça a juste pas de sens. Parce qu'il se fait demander un petit peu sur la suite des choses. On va être prêt pour la septième vague. Puis après ça, puis en tout cas, il y a un petit laïus, puis il revient à la fin, puis il réaffirme, puis on va être prêt. Comme là, je te le dis, là, on est en affaire. C'est la septième vague. C'est la septième vague. Moi, je me rappelle au début, quand c'est arrivé, Dr. Arruda disait « Non, il n'y a pas de problème, on est prêt. » Parce qu'on sait que la COVID est arrivée au Québec un petit peu après le reste du pays. Et Dr. Oui. Arruda disait « Pas de problème, on est prêt. » Bon, on sait comment ça s'est passé au printemps 2020. Après ça, pour l'été 2020, avant la rentrée, je me rappelle, M. Legault, M. Dubé, conférence de presse, ils disaient « On a un plan, il est solide, on est prêt, on a un plan pour les écoles. Ben, » à l'automne 2020, ça n'a pas été super. Après ça, quand on est arrivé, on s'est rapproché des fêtes, pas de problème, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on dit, on va faire des parties de Noël 4 jours de suite, tu t'en rappelles?
Oui.
Ça n'a pas duré. Le 19 novembre, on annonce les parties de Noël en grande pompe. Le 3 décembre, 2 semaines plus tard, on annule tout, puis on sait ce qui s'est passé, il y a eu le couvre-feu. Là, c'était un peu le jour de la marmotte. Après ça, on était prêt pour le printemps. Le printemps, on a fermé des centaines d'écoles à la dernière minute, en catastrophe. On a fermé des milliers de commerces. On est encore prêt pour la rentrée scolaire l'année d'après. Évidemment, de cette année, de cet hiver, c'était encore pire que l'année précédente. Donc,
c'est quoi la conclusion? Ouais, mais c'est quoi la conclusion, écoute, Patrick? C'est qu'il faut jamais que le gouvernement devrait jamais dire on est prêt parce que, à moins qu'il soit vraiment prêt à être prêt, parce que sinon il fait juste nous dire qu'il est prêt, puis en fait il est pas prêt.
Ben c'est un peu ça. En tout cas, ça fait penser à un ancien slogan de Jean Charest en 2003 là.
Oui, les deux mains sur le volant là.
Non, je suis prêt.
Je suis prêt, c'est vrai.
Je suis prêt, fait qu'on est prêt. Mais c'est parce que quand la santé publique fait ça, on est dans le message de rassurance. Et non pas dans un diagnostic sur la réalité, d'une part. Et il y a des gens de la santé publique qui pensent que c'est important de présenter des choses d'une certaine façon. Mais c'est surtout qu'on est un petit peu dans le déni, c'est-à-dire qu'on fait rien de différent. On fait juste s'accrocher pendant que la vague passe, puis en espérant que ça fasse moins mal. Et peu importe les gens qui passent à la table, tu sais, ça a été Dr. Arruda, c'est Dr. Boileau, on va voir c'est qui va être... Parce que Dr. Boileau est là par intérim, donc ça va être quelqu'un d'autre. Et on va voir... T'sais, je pense pas que ça va changer beaucoup. Puis, c'est pas juste non plus sur la COVID, parce qu'évidemment, la santé publique s'occupe d'autres choses aussi. Et Dr. Boileau s'est fait poser une question sur l'allègement à venir des normes de nickel dans l'air au Québec, où le Québec va un petit peu à... Le Québec va à sens contraire du Collège des médecins, de l'Ordre des chimistes et des 18 directions régionales de la santé publique. Donc, toutes les directions régionales de la santé publique au Québec disent, écoutez, on pense que c'est pas une bonne idée, et qu'est-ce que fait la direction nationale? OK, c'est parfait. Nous, on va faire le contraire. Mm-hmm. Et là, quand on pose des questions à Dr. Boileau là-dessus, sa réponse a été de dire, ah ben, moi, je regarde l'analyse que la santé publique a été faite par son prédécesseur, le Dr. Arruda, puis on a fait une analyse solide. Là, je veux juste rappeler que c'est la même direction de la santé publique qui s'est solidement planté le port du masque.
Les aérosols. Pandémie,
sur les aérosols, l'utilisation des tests rapides. Quand donner la troisième dose? Hein, la troisième dose, on le rappelle, cet automne, les soignants l'ont demandé, les gens dans les hôpitaux l'ont demandé dès le mois d'octobre, mais finalement, on l'a donné pas mal plus tard et quelques semaines, ça fait une différence. Évidemment, les N95, à un moment donné, on avait 15 millions de masques N95 dans notre repos, puis 10 millions qui s'en venaient, puis on voulait encore pas les données aux gens dans le système de santé, comme si on les gardait pour la prochaine pandémie. C'est ça.
C'est très frustrant. Formidable. Et d'ailleurs, parlant du N95, Dr Quash, donc, qui a quand même dit hier, elle était assise à côté de Luc Boileau, et elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, les N95 sont meilleurs que les masques chirurgicaux, fermez les guillemets. Ça faisait du bien quand même d'entendre ça de la part de quelqu'un qui est soit au gouvernement ou près du gouvernement, dire ça.
Oui, ça faisait du bien. Je sais pas si c'était calculé. On sait que, bon, Dr Quash est pédiatre et épidémiologiste à l'hôpital Sainte-Justine. Moi, j'ai déjà critiqué pour des... Disons qu'elle a tenté de réinventer la roue en faisant des études au Québec pour démontrer le contraire de ce qui fonctionnait ailleurs, notamment sur les tests rapides, entre autres. Là, elle a fait cette affirmation-là. Et là, c'est drôle parce qu'elle est à côté de Dr Boileau. Et Dr Boileau, au moins deux fois pendant des points de presse, dit essentiellement que les N95, ça donnait pas grand-chose, que les masques chirurgicaux faisaient le travail, puis qu'il n'y avait pas davantage à porter des N95. Et là, sans entrer dans les détails techniques, c'est abondamment démontré que c'est faux. Puis une raison toute simple, c'est pas fait pour ça. C'est comme des pneus d'été et des pneus d'hiver. Les deux roulent, mais sont pas faits pour rouler dans les mêmes conditions.
Mon Dieu, j'adore ta comparaison, Patrick! J'adore
Ça me fait plaisir. On va en trouver d'autres. Mais c'est ça, les masques chirurgicaux, c'est pour t'empêcher de cracher dans le patient. Je dis grossièrement. Tandis que les masques N95, c'est les masques qui protègent contre les particules fines. C'est utilisé aussi par les travailleurs de construction. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais bref, Dr Arruda avait dit ça aussi. Dr Boileau dit ça. Et là, on a Dr Quash qui est là. Et, là, évidemment, il y a quelqu'un qui peut poser une question à Dr Boileau. Hey! Dr Boileau, c'est parce que vous avez dit ça plusieurs fois, puis c'est sur votre avis, celui de Dr Arruda, qu'on s'est basé pour ne pas étendre l'utilisation des N95 qu'on les a retardés. Êtes-vous d'accord avec Dr Quash? Une petite occasion manquée ici, mais bon.
Ouais, c'est dommage.
C'est un peu tard.
Oui, la prochaine fois, il faudrait que tu sois, toi, aux conférences de presse pour poser des questions ou pour suggérer des questions aux journalistes. Écoute, je veux absolument que on parle un petit peu des chiffres aux États-Unis, parce que c'est quand même assez inquiétant quand on fait le bilan de 2021. Raconte-nous ça, les chiffres de la COVID aux États-Unis.
C'est intéressant que ça vienne des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regardez, c'est fini aux États-Unis, quasiment pas de mort, puis liberté, puis en tout cas... » Et puis là, tout ce que je dis là, c'est, encore je répète, c'est jamais un justificatif pour dire on ferme tout, c'est un confinement, c'est un aveu d'échec, mais on a des outils, par exemple, pour ralentir la circulation de ce virus-là, puis on peut les utiliser. Les données préliminaires du CDC, donc essentiellement l'équivalent de la santé publique aux États-Unis, en 2021, la COVID a été la quatrième cause de décès chez les 15-24 ans, la deuxième cause de décès chez les 25-44 ans, la première cause de décès chez les 45-54 ans. Fait que, quand tu y penses, c'est sûr que, pour mettre en perspective, c'est pas des âges où le nombre de décès sont immenses, évidemment, parce que la pyramide des âges étant ainsi faite, puis l'espérance de vie aux États-Unis était tout près de 80 ans, de moins qu'ici, mais quand même. Mais ça montre que c'est un tueur sérieux. Fait que si on s'inquiète d'autres causes de mortalité, que ce soit les accidents, que ce soit les suicides, et dans le cas des 45-54 ans, c'est aussi des cancers et des infarctus qui commencent à être des causes de mortalité significatives, la COVID est pas moins importante que ces causes-là. Elle est même plus importante dans ce cas-ci pour la dernière catégorie.
Ouais. J'aime beaucoup quand tu dis « liberté ». C'est ça. La liberté de mourir, peut-être? En tout cas, bref.
Un masque, c'est pas si dérangeant. Se faire vacciner à 3 ou 4 doses, c'est pas si dérangeant que ça non plus.
Ah, ben non, c'est l'œuvre du diable, le vaccin. Voyons, Patrick. Écoute, je veux absolument qu'on finisse en parlant d'avortement, parce que, évidemment, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis qu'on a appris, grâce à une fuite du journal Politico, que la Cour suprême envisageait sérieusement de renverser Roe versus Wade, qui protège quand même depuis 1973 le droit des femmes américaines à se faire avorter. Le gros débat, c'est de savoir, est-ce que au Québec, est-ce que au Canada, dans nos parlements respectifs, est-ce qu'on pourrait éventuellement renverser justement la liberté d'avortement au Québec ou au Canada? Toi, tu dis que le débat se situe ailleurs que ça.
Oui, parce qu'on parle d'accès à l'avortement. Et là, bon, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible que ça arrive dans 100 ans, mais je pense qu'il y a très, très, très peu de chances que c'est virtuellement impossible dans la configuration actuelle, parce que ne serait-ce que même au Parti conservateur, parler d'avortement, c'est toxique. C'est Pierre oui. Poilievre a dit qu'il ne changerait rien, c'est assez clair, là. Puis, je veux aussi expliquer, moi, je pense que l'avortement, ça devrait être permis tout le temps. Point. Puis au-delà des considérations morales et éthiques, aussi les considérations juste de politique publique, quand tu interdis l'avortement, d'abord, tu diminues pas les avortements, tu crées un déplacement, tu crées d'autres problèmes. Puis même, comme c'est souvent accompagné de mauvaises politiques d'éducation sur la santé sexuelle, tu peux te finir par te retrouver avec plus d'avortements que s'il était légalisé. Fait que même de ce point de vue-là, quelqu'un qui est contre, philosophiquement, contre les avortements, qui en veut le moins possible, en regardant ce qui se passe sur le terrain, ben, il devrait dire il y a d'autres approches qu'une approche bête pour dire on revient comme si on était au Moyen-Âge, puis on fait juste de la morale. Mais ceci dit, au-delà de ça, il y a beaucoup de signalements de vertu. Et tu sais, dans une population, là, au Québec, 100% des gens sont pas d'accord avec le fait de protéger le droit des femmes à l'avortement. Ça, c'est la réalité. C'est très élevé au Québec, c'est plus élevé que dans les autres provinces. Il y a environ seulement 7% des Québécois qui se déclarent d'office contre, puis 4% qui sont indécis. Fait qu'on peut penser qu'il y a peut-être 10% de la population qui a des réserves sérieuses ou ceux qui sont contre. C'est plus élevé dans le Canada. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que chez les candidats dans les partis politiques et chez des élus au Québec, au Canada, il y a des gens qui ont les mêmes convictions.
Ben oui, c'est sûr.
Et c'est normal.
Et c'est donc, correct aussi. Et ben c'est oui. correct, parce que c'est il faut une diversité d'opinions. Puis aussi, si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, c'est que on a tendance à dire soit t'es pour, soit t'es contre. Mais on peut être pour et quand même vouloir qu'il y ait des balises. Je te donne l'exemple de la France. En France, l'avortement est libre et gratuit jusqu'à 12 semaines. Donc, mais au Canada, il n'y a pas ces balises-là. Et quand tu fais, ne serait-ce que dire, bon, on aimerait ça peut-être mettre des balises ou l'avortement sexo-sélectif ou l'avortement tardif, on se fait dire non, c'est une porte qu'on veut même pas ouvrir. Ben, je m'excuse, on peut s'asseoir en personne intelligente puis s'en parler quand même.
Tu as raison. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que dans la majorité des pays, il y a effectivement des balises. Et là, moi, je suis même pas en train de prendre position là-dessus. Tu constates. Et effectivement, il y a quelque chose juste à le mentionner qui fait que tu te retrouves dans le mauvais camp. Et c'est un problème. C'est un petit peu hypocrite. Ça empêche de discuter. Mais surtout, c'est de la diversion, parce que ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça devient une espèce d'arme politique pour disqualifier tes adversaires, puis là, tu pourris le débat, et en réalité, là, il y a rien qui va arriver au Canada, il y a absolument rien qui va arriver, c'est tous les partis politiques ont fait leur lit là-dessus, ça ne bougera pas, mais il y a des gens dans la population qui sont contre le droit des femmes à l'avortement, il y a des gens qui sont pour la peine de mort. Il y a des gens qui pensent encore que le mariage gay devrait être illégal. Fait que ces positions-là existent. Puis la meilleure façon, on a tout à fait le droit de les combattre. Moi, dans la plupart des cas, dans tous les cas, je suis résolument du côté, si on veut, progressiste, si on veut, par rapport au côté conservateur. Mais le reste, ça existe et c'est pas dans une espèce de concert d'insultes où tu essaies d'interdire politiquement et civilement aux gens d'exister, que ça donne absolument rien pour le débat, puis ça met beaucoup d'énergie qui n'est pas nécessairement dépensée au bon endroit.
De la bonne façon. Oui. Ça, je trouve que c'est un point de vue. C'est un point de vue intéressant, puis c'est aussi le principe même de la démocratie. C'est que tu peux pas dire telle personne n'a pas le droit de... Je veux dire, les candidats peuvent se présenter. Puis après, ça va être aux gens de voter. Est-ce que vous votez pour ce candidat-là? La question se pose évidemment pour le candidat anti-avortement dans les rangs du Parti conservateur québécois d'Éric Duhaime. Il y a des gens qui disent, il devrait même pas avoir un candidat qui est contre l'avortement. Puis il y a d'autres gens qui disent, non, au contraire, il faut que cette personne-là se présente pour le parti. Et après, ça va être aux électeurs de décider. C'est comme si, en empêchant la personne de se porter candidate, on décidait à l'avance de la décision que pourraient prendre les électeurs. C'est penser à la place des électeurs. Et ça s'appelle un processus antidémocratique. Je pense que c'est quand même assez clair, mais Ça a l'air que c'est des choses qu'il faut rappeler.
Absolument. C'est des gens qui joignent un parti politique. Puis, tu sais, c'est pas des blocs monolithiques. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, pourrait, je sais pas moi, être dans le Parti conservateur, trouver que la taxation du carbone, c'est une excellente chose. Mais, dire là-dessus, mettre de côté sa préférence personnelle pour embrasser un parti politique plus large. Et c'est la même chose pour des gens qui peuvent penser que l'avortement, de leur point de vue à eux, ça devrait être interdit. Et je rappelle, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais qui vont dire, ben moi, je pense ça, mais mon parti pense pas ça. Mais l'autre point aussi, c'est que pendant ce temps-là, le problème majeur, ça reste le même, c'est l'accès aux soins de santé, dont l'accès à un médecin de famille. Juste te rappeler qu'il y a environ un an et demi, parce que j'ai pas les données les plus récentes pour ça, on sait qu'il y a présentement il y a 1 million de personnes qui attendent pour un médecin de famille, mais pour les patients jugés prioritaires, c'est-à-dire les gens justement, les femmes enceintes, là, ça c'est des priorités urgentes. L'attente moyenne selon les régions au Québec, c'était de 2 à 6 mois. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire 2 trimestres enceinte sans avoir de médecin de famille. Fait que ça, c'est une maudite barrière à l'avortement et c'est probablement pire aujourd'hui parce que depuis un an et demi, le nombre de gens en attente de médecins de famille a à peu près doublé. On était passé d'autour de 500 000 à 1 million. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre de l'énergie.
Absolument. Pour faire du tu as tout à fait raison. Et juste pour conclure, parce qu'on commence à manquer de temps, c'est que tu parlais tout à l'heure de tu sais, on peut très bien être membre d'un parti politique et pas nécessairement être en accord avec l'ensemble de la plateforme. Sais-tu que ça s'est déjà vu, quelqu'un qui est un environnementaliste contre les pipelines et qui est allé travailler pour un gouvernement?
Oui.
Pro-pipeline. Oui, ça s'est déjà vu. On va se quitter là-dessus, malheureusement, Patrick, parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a. Mais je voulais juste faire cette petite pointe d'ironie. Patrick Derry, qui est chaque semaine avec nous, analyste en politique publique. J'ai déjà hâte à ta prochaine analyse. Merci, Patrick.
Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, vous le savez maintenant, hier, au Parlement canadien, les députés ont voté majoritairement contre la motion du Bloc québécois qui visait à retirer des délibérations cette prière quotidienne imposée aux parlementaires. 266 députés, donc, qui ont voté contre. Est-ce que ça signifie que à Ottawa, on n'a pas la même définition de la laïcité ou de la neutralité de l'État qu'on a au Québec? On va parler de tout ça avec Étienne-Alexis Boucher. Il est vice-président du Rassemblement pour la laïcité. Ils ont émis hier un communiqué suite à cette décision à la Chambre des communes. Monsieur Boucher, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
266 personnes députées, donc, qui ont voté contre la motion du Bloc québécois. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit rejeté de façon aussi péremptoire, Monsieur Boucher?
Ouf, vous savez, j'aime vivre d'espoir. Et on pouvait s'attendre à voir le gouvernement et la Chambre des communes se tourner vers la modernité. D'autant plus que le chef libéral, notre chef du gouvernement, Justin Trudeau, en 2015, suite à l'arrêt au jugement de la Cour suprême dans l'affaire du mouvement laïque du Québec contre la ville de Saguenay, s'était montré ouvert à la possibilité de remplacer la prière au début de chaque séance par un moment de recueillement, jugeant quand même ce moment solennel important dans le déroulement des travaux. Alors, hier, il a sorti de la Chambre, mais il a quand même enregistré son vote par voie électronique. Il s'est opposé à l'adoption d'une motion qui n'aurait été que la simple application de ce jugement-là qui dit clairement l'importance pour l'État d'adopter une position de neutralité du religieuse afin de respecter les croyances de tous et chacun.
Alors, c'est ça qui est surprenant, mais en même temps, il faut expliquer aux gens, même si la Cour suprême a rendu ce jugement-là, qui touchait en fait le maire Tremblay, un maire très croyant qui demandait la prière au conseil municipal, au conseil de ville, il n'en reste pas moins que ce qui se passe au Parlement ne dépend pas de la Cour suprême. Autrement dit, c'est aux parlementaires eux-mêmes de décider ce qui se passe dans l'enceinte du Parlement. C'est pour ça qu'ils avaient le droit de voter et de maintenir cette prière-là. Est-ce que ça vous a surpris, par contre, de voir que le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui pourtant lui-même, de confession sikh, porte un signe religieux ostentatoire, que lui a voté pour la motion du Bloc québécois. Donc, même lui, qui est pourtant un croyant pratiquant vraiment visible, disons ça comme oui. ça, que même lui dit, ben voyons, ça n'a pas de sens la prière au Parlement.
Non, nous, on n'était pas surpris parce qu'évidemment, lui, peut-être se sentit exclu par cette pratique que j'oserais qualifier de moyenâgeuse à la Chambre des communes, qui fait appel au Dieu Tout-Puissant, qui, mon Dieu, sauver les parlementaires et de donner leur un once de sagesse, là, afin qu'ils puissent bien travailler, là, tu sais. Donc, non, ce n'est pas très surprenant de sa part. Mais on voit là toutes les difficultés que rencontre le Canada dans ce qui est dans la définition du vivre ensemble, hein. Et oui. on n'en est pas à une contradiction près. Le gouvernement actuel ne cesse de vouloir faire de la réconciliation avec les Premières Nations, une politique d'État. Or, ça fait désormais 7 ans qu'ils sont au pouvoir et le fameux régime de ségrégation qui a été imposé au 19e siècle aux nations autochtones par l'entremise de l'inique loi sur les Indiens, eh bien, c'est toujours en vigueur. Prenez, on est le Canada est le chantre du multiculturalisme, mais attendez, il faut que ça se passe en anglais. Hein. On voudra certainement pas célébrer la diversité culturelle, par exemple, en tolérant plus d'une langue officielle sur son territoire, là, alors que, bien sûr, le français a le statut de langue officielle, mais évidemment, il n'est pas soutenu. Le Canada est une structure politique qui ne permet pas le développement, le rayonnement de cette autre langue. D'ailleurs, à preuve, le chef de l'État canadien, incarné par la personne de Marie Simon, est incapable de s'adresser à ses oui. concitoyens en français. Alors, évidemment, et là, je vous parlerai pas non plus des valeurs de protection environnementale dont se réclame le gouvernement actuel et qui, 2 jours après la publication de rapports catastrophiques du groupe d'experts en matière de changement oui. climatique, va appuyer le projet de développement là, de Baie du Nord, là, qui prévoit évidemment l'exploitation pétrolière
oui,
au nord de
Terre. On s'éloigne un petit peu de la laïcité parce qu'on pourrait trouver toutes sortes de contradictions au niveau fédéral, mais revenons donc à cette question de laïcité. Je veux juste lire un petit bout de la prière pour que les gens comprennent bien, parce que on dit la prière, les gens pensent que c'est peut-être quelque chose d'un peu écuménique, là, un petit peu vague, mais non, c'est quand même très 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 clairement bon. Alors le voici. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre souveraine, la reine Élisabeth et la gouverneure générale. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés. Aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs. Et ça se termine en disant amen. Bon, j'en ai coupé une partie. Moi, je suis désolée, mais j'ai un malaise absolument énorme à savoir que des gens qui, par exemple, pourraient être appelés à un moment donné à se prononcer sur la question de l'avortement, par exemple, que ces gens-là, tous les matins, avant de délibérer, invoquent un Dieu, alors qu'on sait les dommages que peuvent avoir, par exemple, des croyances religieuses qui sont incompatibles avec les droits des femmes. Donc, je comprends pas qu'un gouvernement qui se dit supposément féministe puisse invoquer un Dieu quand on sait à quel point toutes les religions sont méprisantes pour les femmes et pour les homosexuels et pour plein d'autres raisons, là.
Ben absolument, mais et de l'autre côté, en dépit de toutes ces incohérences, allons au bout de la logique. La Constitution canadienne, la première phrase
oui,
de la Constitution canadienne, fait état du fondé de pouvoir au Canada, et celui-ci n'est pas issu de la volonté populaire, par exemple par l'entremise des élections, donc du vote, du choix des concitoyens, des Canadiennes et des Canadiens, des Québécoises et des Québécois. Non, le fondé de pouvoir au Canada, il est issu de Dieu, le chef ou la chef du Canada, elle est désignée par celui-ci, c'est-à-dire Dieu, alors qu'il a décidé que c'est une telle ou une telle personne qui allait devenir la reine ou le roi du Canada. Donc, en ce sens, on peut y voir une certaine cohérence. Mais après ça, au 21e siècle, est-ce qu'on juge que c'est une bonne politique publique? Est-ce qu'on juge que c'est une bonne politique de vivre ensemble que de mettre de l'avant des principes religieux qui, bien entendu, vont systématiquement, notamment, à l'encontre des droits des femmes et des minorités sexuelles? Là, tu sais, c'est vraiment une une politique qui est dépassée et qui malheureusement s'accroche à des convictions et des pratiques au Canada qui évidemment sont rejetées par une grande majorité de Québécoises et de Québécois.
Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la loi 21, la loi justement sur la neutralité religieuse. Est-ce que ce qui se passe, ce qui vient de se passer à Ottawa, c'est pas une occasion en or, justement, d'expliquer le concept de liberté de conscience qui est au cœur de la loi 21 et qui était au cœur aussi, bien sûr, de cette motion du Bloc québécois? Est-ce que c'est pas une occasion de faire de l'éducation populaire, entre guillemets?
Ben, toutes les occasions sont bonnes. Dans tous les cas, c'est à peu près quotidiennement que des attaques proviennent du Canada anglais contre des lois telles que la loi 96 ou la Charte de la langue française ou encore la loi sur la laïcité de l'État. Toutes des occasions pour tenter de démystifier le principe de laïcité auprès du Canada anglais. Mais vous savez, on part de loin, là. Il n'y a même pas de mot anglophone pour décrire ce qu'est la laïcité, alors que le mot s'en rapprochant le plus, c'est-à-dire le sécularisme ou secularism en anglais, mm-hmm. avec mon très mauvais accent, je suis désolé, ne fait pas état de la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est un verbe transitif, la sécularisation, qui ne fait que dire que ben on est de son temps, on est de son siècle finalement. Alors, franchement, oui, vous avez raison, ce peut être une occasion pour tenter d'expliquer à nos frères canadiens et canadiennes ce qu'est véritablement la neutralité religieuse de l'État et la séparation entre l'Église et l'État. Par contre, on part de loin, ce n'est pas des principes qui sont inscrits dans les os et coutumes des institutions d'origine britannique, hein, dont sont issues les institutions canadiennes. Et j'invite le gouvernement, d'ailleurs, le gouvernement actuel du Québec, à bonifier les programmes permettant de mieux expliquer la laïcité tant aux Québécoises et aux Québécois qu'aux Canadiens et aux Canadiennes. Il faut démystifier cette loi qui, loin d'être raciste, est son contraire. Hein. C'est la loi sur la laïcité permet de traiter tous et chacun sur un même pied d'égalité, peu importe ses croyances religieuses. Et à nos yeux, ça vient incarner ce principe où l'État n'a pas à se mêler, par exemple, de ce qui se passe dans la chambre à coucher ou de ce qui se passe dans le cœur et l'esprit de ses citoyens. L'État canadien, l'État québécois doivent plutôt se préoccuper du vivre ensemble, et le vivre ensemble est le dénominateur le plus commun à tous et toutes. Donc, ne pas mettre de l'avant, par exemple dans ce cas-là, une religion, le christianisme, plutôt que d'autres religions.
Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que hier, évidemment, au Parlement, ça a donné lieu à des débats, et il y a un débat extrêmement intéressant à un moment donné entre le conservateur Gérard Deltel et le député du Bloc québécois pour Mirabel, Jean-Denis Garon, parce que M. Deltel, en chambre, a attaqué M. Garon en disant « Ben, vous êtes pour la laïcité, vous êtes contre, donc, cette fameuse prière, mais dans votre comté, il y a des villes qui s'appellent, bon, Saint-Pie, puis là, il a fait la liste de tous les villages qui ont un nom catholique, là, Saint-Glinglin, puis Saint-Machin, puis Saint-Ceci, puis Saint-Cela. » Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que la laïcité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une croix sur le Mont-Royal ou qu'il y ait la rue Saint-Denis puis Saint-Laurent. Comment on peut démonter cet argument-là, M. Boucher?
Vous savez, Mme Durocher, je pense que c'est Talleyrand qui disait que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Oui. Comment démonter un argument insignifiant qui dit voir une contradiction entre la nécessaire séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que l'État, qu'il soit québécois ou canadien, ne favorise pas une religion plutôt que d'autres religions, et de faire le lien avec la toponymie des lieux. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est difficile de répondre à de telles, j'oserais qualifier, d'inepties. Tu sais.
Oui.
Je reviens. En fait, là, la problématique à l'heure actuelle, c'est que le Canada est pris dans ses contradictions. Il n'est pas en mesure de définir des politiques claires en matière, par exemple, de séparation de l'État et des religions, en matière de respect des droits des femmes. Regardez, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les travaux du Comité sur le racisme systémique dans les forces armées canadiennes, mais d'un côté, on veut tasser les religions qui sont incarnées, par exemple, exemple par la présence de monnaies appartenant à des religions structurées telles que le christianisme ou bon d'autres grandes religions, mais de l'autre côté, on peut faire rentrer des gens qui vont promouvoir des croyances ancestrales, par exemple amérindiennes.
Autochtones,
évidemment,
oui, oui. J'ai vu
ces traditions-là, mais en quoi elles ont à voir avec l'organisation des forces armées canadiennes?
Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit il y a pas de place pour ça, on n'enlève pas une spiritualité pour la remplacer par une autre. On dit ça n'a pas sa place. C'est assez assez simplement ramassé. Étienne Alexis Boucher, vous êtes
alors ouais. Pauvre Canada que j'oserais dire qui est non seulement en retard
pour citer Fatima,
sur le Québec, hein.
Étienne Alexis Boucher, Canada, on doit se quitter là-dessus. Je suis vraiment désolée, désolée.
Écoutez, on espérait que le Canada finisse par rattraper le Québec avec 50 ans de retard jusqu'à présent.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, l'Assemblée nationale, ça fait 50 ans maintenant qu'il n'y a plus de prière. Enfin, il y a un moment de recueillement, mais ça n'est pas une prière, ou certainement pas. Ça commence pas par Dieu Tout-Puissant, puis ça finit pas par Amen. Mais notre entrevue va se terminer par Amen. Merci beaucoup, Étienne Alexis Boucher. Vous êtes vice-président du Rassemblement pour la laïcité. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous, Madame Durocher. Une belle journée.
Allez et ne péchez plus. Ita Missa Est, la messe a été dite, on pourrait dire ça, l'émission a été dite. Merci beaucoup d'avoir été là, merci à Jean-François Paquet, à la mise en onde et à la réalisation. Florence Lamoureux assurait encore une fois la recherche. Merci d'avoir été là et d'avoir participé à tous ces débats d'idées pendant une heure chaque jour. Ça a été un plaisir d'être avec vous et on se retrouve demain vendredi.
Cube Radio.